L'Empire sans fin, première série, l'Empire romain. Avec Alberto Dallorosa et Ulrich Heugeven.
Eh bien bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition de L'Empire sans fin sur Radio, une émission où l'on évoque l'Empire romain et sa longévité si inédite. Pour en parler, on retrouve Alberto Dallorosa. Bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour.
Alors Alberto, vous êtes maître de conférences en histoire ancienne, spécialiste de l'Empire romain. Aujourd'hui, on va s'intéresser avec vous à une thématique particulière, la façon dont ont été gouvernées les provinces de l'Empire romain. Alberto, peut-être un petit point de précision d'ailleurs pour débuter cette émission. Au maximum de son expansion, combien de provinces comptait l'Empire ?
Oui, au maximum, et ça dépend effectivement des époques, parce qu'effectivement, on peut avoir un certain nombre de provinces après qui ont été redivisées, recoupées, mais donc on va d'une trentaine en quarantaine de provinces, normalement entre le deuxième, le troisième et un peu plus aussi au quatrième siècle. Donc, il y a un nombre relativement élevé, hein, parce qu'effectivement, elles étaient moins nombreuses et plus ils ont été étendus à la fin de la République, au début du Principat, et après ont été normalement, réduites en taille pour assurer un contrôle plus strict.
Alors justement, Alberto, vous parlez de la taille des provinces. Est-ce qu'elles sont de superficie comparable ou très différente ?
Ah ben, peuvent être très différentes. Normalement, certaines provinces frontalières ont souvent la tendance à être réduite, effectivement, pour ne pas concentrer un nombre trop élevé de troupes dans une unique province. Déjà, ça permet de d'éviter qu'un gouverneur puisse avoir trop de force à sa disposition et donc devenir une menace. Mais aussi, c'est effectivement le fait qu'il faut une logistique plus importante pour, par exemple, approvisionner 6 ou plus légions, donc c'est mieux de séparer et donc mettre deux gouverneurs avec des contingents plus petits. Donc on a par exemple au début, on peut imaginer la province, même la Gaule au tout début de l'époque augustéenne était une province unique, après elle a été divisée effectivement à nouveau avec le sud de la Narbonnaise, la Lyonnaise, la Belgique, l'Aquitaine, et après, effectivement, de la province Belgica, on a, sous Domitien, effectivement, créé les provinces de Germanie. Donc, effectivement, on voit comme progressivement, pour des raisons de solidité aussi de l'organisation et de la protection des frontières, on va réarranger les limites des provinces.
Et qui, justement, fixe les limites ? C'est l'empereur, le Sénat ?
Normalement, alors, c'est à l'époque en période, certainement, c'est l'empereur. Le Sénat, c'est surtout à l'époque républicaine, toujours en accord avec les magistrats, parce qu'effectivement, le magistrat, surtout à l'époque républicaine, le magistrat sur place peut avoir un pouvoir une autonomie de décision beaucoup plus large. Donc, il doit faire ratifier après par le Sénat ses décisions, mais c'est vrai qu'il peut avoir une marge de manœuvre plus ample. À l'époque impériale, c'est uniquement l'empereur qui décide. Et c'est vrai que la décision se prend par l'empereur dans le cadre de décision avec son conseil et sur la base normalement aussi de données qu'ils ont de cadastraux ou de règlements politiques aussi avec des peuples et des cités.
On a vu donc, Alberto, que les provinces de l'Empire romain avaient des superficies, des tailles très différentes. Est-ce qu'elles ont aussi des statuts qui peuvent là aussi différer ?
Oui, certainement, on peut regarder de plusieurs manières. Alors, déjà, du point de vue militaire, on a des provinces qui sont pacifiées, dans le sens qu'il y a très peu de troupes, parce qu'elles sont placées à l'intérieur, ne présentent pas de problèmes majeurs. Et des provinces militaires qui sont normalement les provinces frontalières. Donc effectivement, les longs du Rhin, du Danube, la Syrie effectivement sur la limite orientale ou certaines parties, la province d'Afrique qui garde aussi un contingent important. Donc c'est déjà une différence. L'autre différence est administrative. Sous le Haut Empire, On a les provinces du prince, donc les provinces qui sont administrées directement par l'empereur et donc avec les gouverneurs qui sont des délégués directs de l'empereur, et les autres provinces qu'on appelle les provinces du peuple, qui sont encore administrées selon la manière républicaine, donc avec des proconsuls qui sont nommés par le Sénat. Mais bien sûr, l'empereur a aussi la possibilité d'intervenir dans ces provinces du peuple et aussi de influencer la nomination des gouverneurs si besoin. Mais c'est vrai qu'il y a des différences administratives et dans les provinces du peuple, le contrôle impérial est, pour ainsi dire, indirect, parce qu'effectivement, il faut passer par les institutions traditionnelles de la République.
Justement, vous parliez des institutions de la République. Quel est le degré d'autonomie de ces provinces du peuple et de leurs institutions propres ?
Oui, alors, le degré d'autonomie, effectivement, est réduit progressivement, parce qu'effectivement, ces provinces vont disparaître progressivement au IIIe siècle et pratiquement vont rester juste quelque chose de très symbolique dans la réforme de Dioclétien, du coup à la fin du IIIe, au début du IVe siècle. Donc des proconsuls vont rester seulement en Asie, en Afrique, de parties très réduites. Parce qu'effectivement, l'empereur a tendance à phagocyter tout. Déjà, toutes les nouvelles conquêtes sont toujours placées sous le lot des provinces du prince. L'autonomie, effectivement, des gouverneurs des provinces du peuple, c'était surtout dans le domaine de la juridiction. Donc l'empereur normalement intervenait en appel, effectivement. La première instance était toujours réservée au gouverneur. Aussi pour gérer certaines matières fiscales, il y avait un peu plus d'autonomie, certainement. Mais c'est vrai que cette autonomie doit être toujours défendue et gérée de manière à ne pas fâcher l'empereur, ne pas montrer qu'on va contre sa volonté.
Alors vous nous le dites, il y a des provinces de statut différents. Est-ce que les citoyens de ces provinces, les habitants de ces régions sont très différemment qu'ils habitent dans une région ou l'autre ?
Pas forcément dans le sens que les statuts des citoyens n'ont pas d'influence sur ce type de questions. Effectivement, les provinces, c'est vrai que les provinces administrées par le Sénat et le peuple sont normalement les provinces qui sont de plus anciennes constitutions, donc elles ont plus de citoyens romains normalement, ont un taux d'urbanisation plus élevé, un degré d'urbanisation plus élevé, et donc c'est vrai que c'est un travail administratif plus, pour ainsi dire, civil, alors qu'en province frontalière, où il y aura moins de cités, moins de citoyens romains, plus d'importance plus grande accordée à l'armée, des peuples qui sont donc de frontières, donc intégrés de manière limitée à l'administration romaine, effectivement, le travail du gouverneur est plus celui de gérer des peuples étrangers plutôt que de rendre la justice ou administrer des peuples largement intégrés à la manière des vies gréco-romaines.
Alors vous nous l'avez dit, Alberto, l'Empire romain va progressivement se centraliser. Est-ce qu'on peut dire qu'avant ça, ou sous Dioclétien notamment, est-ce qu'avant on pouvait parler d'une sorte de caractère fédératif, pour utiliser un mot peut-être un peu moderne ?
Ben ça, c'est effectivement une question intéressante, dans le sens que c'est vrai que progressivement, il y a toujours une intégration plus grande des peuples, déjà dans la citoyenneté romaine, qu'on peut, selon des calculs récents, on devait avoir au début du IIIe siècle plus ou moins un tiers de la population de l'Empire qui avait la citoyenneté romaine, et on est passé à la totalité de la population libre, en tout cas en 212, qui accède à la citoyenneté romaine. Donc déjà, ça a apporté une grande poussée vers une uniformité dans le rendre de la justice, dans certaines, effectivement, dans le traitement des personnes et de leur statut. Et donc, une fédération, d'une certaine manière, oui, parce qu'effectivement, il y a le gouvernement central de la province qui intervient obligatoirement dans une série de domaines, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres domaines d'autonomie, et là où les cités, les peuples locaux peuvent continuer d'être autonomes, et finalement leur intégration se fait par le fait, par le biais de respecter déjà l'autorité du gouverneur et de payer l'impôt aux Romains. Donc c'est vrai que plutôt qu'un État territorial avec des subdivisions administratives comme un État moderne, il faut penser plutôt effectivement à un grand espace divisé parmi peuples et cités qui sont soumises effectivement à l'autorité romaine, mais peuvent garder un bon degré d'autonomie dans plusieurs domaines.
Eh bien, merci. Un très chaleureux merci, Alberto, d'arriver. Nous arrivons au terme de cette émission, hein, donc consacrée aux provinces romaines. On parlera la prochaine fois de fiscalité dans l'Empire. Merci encore.
Merci beaucoup. Au revoir.
C'était l'Empire sans fin avec Alberto Dallorosa et Ulrich Heugevelt.